On change pas les bonnes habitudes. Vous êtes maintenant dans le caucus Iacarini à Boulevard Saint-Denis.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iacarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Antonine, salut!
Allô!
Comment vas-tu avec cette semaine de radio intense, en plus de toute la nouvelle que tu as à ingérer, analyser, décortiquer?
C'est plus facile de travailler quand on a beaucoup de nouvelles. Le plus dur, c'est quand il se passe rien.
D'aller gratter.
On cherche quelque chose d'intéressant pour les auditeurs. Et depuis que je fais le caucus à Boulevard, ce n'est jamais arrivé encore. Je touche du bois très, très fort.
Ça, c'est de la mélamine. Il va falloir trouver autre chose, mais...
Ça compte. Il y en a ici, ça console. Donc, effectivement, on ne s'ennuie pas. Puis, en fait, c'est moins de travail dans l'abondance. Mmh. Les gens pensent toujours « Oh, j'ai une pensée pour toi, tu dois être dans le jus. » Ben, pas vraiment plus que d'habitude, dans le fond, c'est beaucoup mieux.
Ton téléphone sonne-tu plus que toi, tu le fais sonner chez d'autres pour avoir de l'information ces jours-ci?
Je ne saurais te dire. Je pense c'est juste un feu roulant.
OK, parce que des fois, je me dis, il y en a qui veulent faire couler de la nouvelle, mais en ce moment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui a besoin d'en faire couler pour que...
Tout coule tout seul, là. Ça tout déborde de partout.
Puis parlons-en, en fait, en politique... à Québec, mais au Québec surtout, Bernard Drainville fait vraiment jaser ces temps-ci. Il a décidé d'ajouter de la chair autour de l'os dans les derniers jours. Il parle de quelque chose qui lui tient à cœur clairement parce qu'il en parle pas mal dans ses politiques si jamais il devient chef du côté de la CAQ, mais il veut couper dans les services aux demandeurs d'asile.
Oui, et c'est une sortie qui, en fait, a déjà été faite quelquefois par d'autres membres de ce gouvernement-là. On peut penser à Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration. Il a déjà menacé de couper dans les services aux demandeurs d'asile si le fédéral ne réduisait pas le nombre d'immigrants temporaires sur le territoire québécois. Aussi, Chantal Rouleau, qui est la ministre responsable de l'aide sociale, notamment ministre de la Solidarité sociale, qui a dit l'automne dernier réfléchir à couper certains services aux demandeurs d'asile. Il faut savoir aussi que le gouvernement du Québec est présentement en train de contester une décision de la Cour qui oblige le Québec à donner accès aux services de garde subventionnés pour les demandeurs d'asile. On sait qu'il y a beaucoup de parents qui sont sur la liste d'attente et Québec souhaitait prioriser les résidents permanents et citoyens dans les CPE. Ça fait beaucoup jaser, ça fait réagir.
C'est en cours, c'est un projet qui est en train de se construire, puis là, on entend ça de Bernard Drainville. Ça veut dire qu'on pourrait arrêter.
Ben, en fait, mon point, c'est surtout de dire que c'est pas nouveau. Il y a Pierre Poilievre aussi, il y a quelques jours, qui a, au palier fédéral, proposé qu'on coupe certains services de santé pour les demandeurs d'asile. Donc, il y a un débat qui est légitime. Et c'est ce qu'on appelle en politique un wedge. Donc, on veut avoir des sujets sur lesquels l'adversaire va devoir se positionner, être un peu plus sur la défensive. On sait que Christine Fréchette, son adversaire dans la course à la direction, a été ministre, elle, de l'Immigration. C'est pas quelque chose qu'elle a décidé de faire, de couper dans l'aide aux demandeurs d'asile à l'époque. En coulisses, on dit que Mme Fréchette a de la difficulté, des fois, à prendre des décisions plus difficiles, qu'elle les repousse un peu à plus tard. Donc, ce genre de wedge politique dans le jargon, c'est ça. C'est qu'on dit, bon, ben moi, je vais couper dans les services aux demandeurs d'asile. Toi, Christine, vas-tu le faire? Et c'est sûr que d'aller dire, ben non, moi, je pense que c'est important de continuer de donner des services aux demandeurs d'asile. Ça peut plaire à certains, mais déplaire à d'autres. Donc, des fois, sur certains enjeux, il y a des candidats, surtout quand tu es meneur dans une course, sur lesquels tu auras avantage, en fait, à ne pas du tout te positionner. Sur le fond des choses, les services aux demandeurs d'asile, ben de quoi on parle ici? Bernard Drainville veut couper dans l'aide sociale. Donc, il y a une aide de dernier recours qui est donnée aux demandeurs d'asile. Un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui arrive sur le territoire et qui demande l'asile. Donc, après, il y a une décision qui est prise par une commission fédérale. Est-ce qu'on accepte cette personne-là comme un réfugié ou est-ce qu'on lui donne un avis d'expulsion? Il doit quitter le territoire. Mais ça peut être très long. Et entre-temps, on doit donner des services à ces personnes-là. Donc, il y a l'aide sociale, mais aussi l'aide au logement. Donc, accès à des logements sociaux. M. Drainville veut que ce soit priorité pour des résidents permanents et citoyens, les logements sociaux. On peut s'interroger sur les effets pervers d'une politique comme celle-là. Parce que là, il n'y a rien là-dedans qui permet de réduire. M. Drainville, ce qu'il dit, c'est que ça va réduire l'attractivité. Les gens viennent ici sachant qu'ils vont avoir des services.
C'est une supposition, c'est une hypothèse.
On ne sait pas.
S'il en rentre encore autant, et tu priorises ceux qui sont résidents permanents ici, tu les mets où? Parce qu'ils vont être quand même sur le territoire, c'est un peu ça?
Bien, c'est ça. Puis le risque, c'est qu'ils soient dans la rue, ces gens-là. Mm-hmm. Est-ce qu'on veut avoir plein de demandeurs d'asile qui vivent dans la rue? Humainement, c'est déjà, on peut se dire que c'est pas très empathique et pas très bien, mais même égoïstement pour nous, je veux dire...
On a déjà des problèmes.
On a déjà de l'itinérance. Est-ce que vous avez envie qu'il y ait des gens, une strate de la population extrêmement pauvre qu'on vient de créer? Donc, tu sais, je pense qu'il y a d'autres solutions. Notamment, la solution, c'est de réduire les délais. Parce que en ce moment, c'est très long. Entre le moment où la personne demande l'asile et a la décision de la commission, c'est long. Donc là, tu as le temps de t'installer. Tu as besoin d'aide pendant plus longtemps. Oui, il y a des permis de travail, mais c'est pas l'idéal. Même ces gens-là peuvent avoir des enfants ici. Même si peut-être qu'ils vont avoir un avis d'expulsion. Donc, ça crée des situations humaines qui sont difficiles.
Il y en a certains qui ont le temps de tomber enceinte, par exemple, faire le 9 mois, accoucher, tellement ça peut être long.
Ben absolument. Ça peut aller jusqu'à 12 mois, les décisions. Donc, oui, ça, c'est des choses qui peuvent arriver.
Ça crée une image dans la tête des gens. Tu sais, tu as le temps de concevoir un enfant puis de le faire naître,
t'as
des fois.
Tu as le temps presque de t'intégrer aussi. Mm. Donc, il y a quelque chose de vraiment, vraiment malsain dans ces délais-là. Mais sauf que ça, c'est du côté fédéral. Donc, M. Drainville, Mme Fréchette, M. Roberge, toute la gang, ils n'ont pas beaucoup d'emprise sur cet élément-là. Et même au contraire, on a appris récemment qu'il y avait des dossiers qui étaient traités sans qu'il y ait eu d'entrevue avec la personne ou d'enquête sur la personne. Donc, ça, c'est pas mieux non plus. On veut pas des acceptations qui sont botchées. Mais il y a vraiment un travail à faire du côté fédéral. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ici du côté québécois? Honnêtement, pas grand-chose. Le fédéral rembourse beaucoup des frais qui sont liés à garder les demandeurs d'asile en attendant la décision de la commission. Québec dit que c'est pas suffisant. Donc, est-ce que c'est plus un levier de négociation par rapport à Ottawa pour avoir davantage de sous pour payer pour les services aux demandeurs d'asile? De la part de M. Roberge, certainement, le ministre de l'Immigration, mais de la part de M. Drainville, c'est plus un wedge politique pour faire jaser parce que les sondages n'ont pas été très doux envers M. Drainville.
Mais présentement, la stratégie que prend M. Drainville, ça marche pas du tout, là, dans le sens, je veux dire, ça fait plusieurs semaines qu'on a vu un virage complet du personnage politique, j'ai envie de dire, des prises de position qu'il n'y avait pas du tout auparavant.
Tu ne le reconnais pas, c'est ça que tu
dis. Non, pas du tout. Puis je pense que c'est le cas de tous les Québécois, mais le problème, c'est qu'il fait tout ça. Puis au final, étant donné que c'est pas du tout des prises de position qu'il y avait avant, j'ai l'impression que ça le ridiculise un peu.
Mais est-ce qu'on le reconnaît pas ou c'était en lui, Antonine, puis il n'y avait pas nécessairement la possibilité de s'exprimer?
Moi, je pense pas qu'il était là, censuré là, puis qu'il devait jouer un personnage parce qu'il n'était pas candidat à la chefferie. Je pense qu'il en rajoute un peu. Parce que on est dans une trame narrative où Mme Fréchette semble s'en aller vers une victoire facile. 70 % des intentions de vote là, dans le dernier léger pour les sympathisants caquistes sont en faveur de Mme Fréchette. Et il y a une autre donnée qui est inquiétante dans le léger pour M. Drainville, c'est qu'il y a seulement 1 % des gens sondés qui croient qu'il peut incarner le changement. Puis on le sait qu'on est dans un moment où les gens commencent. C'est un cycle. À un moment donné, on réclame du changement, c'est là, ça s'en vient, donc c'est difficile pour lui. Une autre donnée inquiétante pour M. Drainville, c'est qu'il y a une majorité de gens... En fait, il est très connu. Les gens ont déjà une opinion envers lui. Et pour plusieurs, plus de 60 % c'est une opinion qui est négative. Donc, c'est difficile de se faire aimer de gens qui t'aiment déjà pas. Généralement, c'est le contraire. Les gens vont commencer par t'aimer, puis tranquillement, ne plus t'aimer. Et l'amour s'effrite.
Puis je suis partie des derniers caucus avec toi cette semaine avec quelque chose que tu as dit qui m'est resté. T'sais, Bernard Drainville a été beaucoup plus exposé que Mme Fréchette sur la place publique avec des enjeux criants, entre autres l'éducation. Puis ça a créé un peu cette carte-là que tu es en train d'exprimer. Tu l'avais dit cette semaine, manquez jamais le caucus d'Antonine, mais je suis partie avec cette phrase-là. Puis peut-être sur le dossier, les deux sont en train de scoltailler, du moins se piquer dans les anciens dossiers de l'autre, soit Bernard Drainville, l'immigration pour Mme Fréchette. Mme Fréchette, on apprenait hier qu'elle avait des positions en éducation qui veut pas l'ancien terrain de jeu de M. Drainville, qu'il est toujours, mais bon, il y a d'autres priorités en ce moment, là.
Non, il n'est plus ministre de l'Éducation, donc les deux candidats ont dû lâcher leur dossier. Mais c'est vrai que Mme Fréchette a décidé hier de faire une annonce en éducation. Et ça, c'est sur le terrain précédent de M. Drainville avant qu'il soit transféré à l'environnement. C'est à se demander si la sortie de M. Drainville plus tard en journée sur le demandeur d'asile, c'était pas en réaction ou c'était prévu. Je ne sais pas. J'ai pas demandé. Puis de toute façon, c'est normal qu'on veuille montrer un petit peu la vision dans chacun des dossiers. Mm-hmm. Pour M. Dréville, tout n'est pas perdu. Mais les indicateurs sont pas très positifs, mais il reste quand même les débats. Puis les débats, ça fait une différence dans une course à la chefferie 21 mars, 28 mars. Et si Mme Fréchette répond pas nécessairement ou réagit pas à chacune des prises de position, en débat, c'est un petit peu plus compliqué de pas prendre position. Donc, je suis pas mal certaine que M. Dréville compte là-dessus pour marquer quelques points.
Beaucoup de départs en politique aussi. Toi, tu es en train de les noter puis tu es en train de les analyser à ce niveau-là. Mais c'est pas juste au sein de la CAQ, là. On en voit partout. Est-ce que ça aussi, ça va dans l'air de renouvellement, de changement?
Exactement. Dans la même veine de ce dont on parlait il y a un instant, on arrive dans un cycle politique où on veut du changement. Là, je généralise, là, c'est pas tout le monde qui veut du changement, mais quand même pas mal de gens. On est en fin de régime, on le sent. La CAQ a une fenêtre qui s'est ouverte avec le départ de M. Legault, mais on l'a vu dans le sondage léger que c'était pas si évident. Mme Fréchette, au début de la course là, en janvier, était capable d'aller chercher pas mal plus de sièges selon les intentions de vote. Déjà, ça a rebaissé. Mmh. On a l'impression que la CAQ retourne un peu tranquillement vers la case départ, on verra. Mais il y a un grand renouvellement des élus qui s'annoncent en 2026. La CAQ majoritaire, même en même temps, la CAQ est majoritaire à l'Assemblée nationale, donc c'est normal aussi qu'il y ait plus de représentation dans les départs également. Mais c'est pas étranger non plus au sondage, à la fatigue, à l'usure de certaines personnes. Donc, si on fait un peu le bilan, ben, faisons la CAQ en premier. Ben, évidemment, François Legault. François Legault, on sait qu'il quitte, mais on ne sait pas encore s'il complète son mandat.
Donc, c'est vrai qu'on n'a pas de date butoir sur son départ. Là.
Dans le fond, la course à la direction s'achève le 12 avril, mais on ne sait pas si M. Legault va venir siéger comme député de l'Assomption. C'est un mystère encore. Je pose la question à peu près une fois par deux semaines à gosser le monde au cabinet du premier ministre. Parce que s'il démissionne moins de six mois avant la fin, tu n'as pas besoin de faire une élection partielle dans l'Assomption. Donc, ça pourrait être une option parce que ça va être un petit peu bizarre de voir... François, là, qui se pointe à l'Assemblée nationale, ancien premier ministre, je ne lui souhaite pas.
Ça fait en un peu le syndrome de la belle-mère. Là.
Ben, il pourrait aussi siéger le moins souvent possible, mais assurer son bureau de comté.
Mais s'il démissionne, par contre, puis veut pas, selon moi, ça va jouer dans la décision, il perd sa prime de départ, qui est à autour de 300 000 $.
Tu sais, c'est pas rien, 300 000 $, là. C'est,
fait que si lui, il reste quelques mois à pas faire grand-chose parce qu'on va s'entendre, il va éviter toute prise de parole étant donné que c'est l'ancien premier ministre.
Il va essayer,
ministre.
En tout cas.
Ben, parce que s'il fait ça, il gagne 300 000 $, me semble.
Ben oui.
N'importe qui dans cette situation-là serait porté à rester.
En tout cas, moi, si j'avais le choix entre 300 000 $ ou pas de dollars, je pense que je prendrais le 300 000 $ là, pour être 100% honnête. Je suis pas mal sûr que les gens à la maison aimeraient ça, avoir un chèque de 300 000 $.
Surtout qu'il quitte, là, on s'entend, il n'y a plus besoin de parfaire son image. Là.
Non, c'est correct. Là. Il a fait ce qu'il avait à faire. Donc ça, c'est pour M. Legault. Mais sinon, parmi ceux qui ont annoncé qu'ils partaient, Geneviève Guilbeault, Caroline Proulx, Sonia Lebel, André Lamontagne, Jonathan Julien, Suzanne Roy, on pense que Christian Dubé va quitter aussi. Il avait pas mal dit qu'il ferait pas un autre mandat. Je serais bien surprise que Lionel Carman se représente. Il n'a pas fait d'annonce comme telle, à ma connaissance. Des députés moins connus aussi, Simon Allaire, Sylvain Lévesque dans la région ici de Québec, André Bachand, Denis Lamotte. Et il y a ceux qui sont déjà partis là, depuis 2022.
Il ne faut pas les oublier, ces
Éric
gens-là.
Éric Lefebvre, Pierre Fitzgibbon, André Laforêt. Il y a ceux qui ont quitté le caucus de la CAQ, qui se cherchent une nouvelle avenue. Là, Pierre Dufour et Maïté Blanchette-Vézina là, qui ne ferment pas la porte à se représenter.
Bon, Maïté Blanchette-Vézina, elle est fortement courtisée par Éric Duhem, mais semblerait-il qu'ils n'ont toujours pas conclu leurs liens matrimoniaux politiques.
Ils n'ont pas bouclé la boucle, donc on verra pour ceux-là. Du côté de Québec solidaire maintenant, Gabriel Nadeau-Dubois, gros morceau, parce qu'en plus, son départ est symbolique compte tenu qu'il a essayé de réformer le parti. Manon Massé, un autre gros morceau. Christine Labrie, députée très populaire là, qui a été élue depuis 2018. Arun Boisy, il y a Vincent Marissal qui a été exclu du caucus, mais qui a annoncé aussi qu'il n'allait pas se représenter ni pour le QS, ni pour le PQ, ni comme indépendant. Parti libéral, on n'est pas dans une vague de départ, sauf un gros, gros morceau. C'est Marois Risky qui avait déjà annoncé qu'elle ne se représenterait pas. Donc, quand on regarde tous ces noms-là, on peut se dire, l'automne prochain, on va avoir vraiment une nouvelle Assemblée nationale. On va avoir une nouvelle classe politique qui va faire son apparition. Souvent, quand il y a des moments comme ça où il y a beaucoup de départs, ben c'est aussi la place à des nouvelles générations, des députés plus jeunes. Donc, ça va être super intéressant. Je pense qu'on va avoir d'autres annonces de départ dans les prochains mois, prochaines semaines.
Je me prends une petite note en tôt pour parler à ce moment-là, ces nouvelles personnes et ces nouveaux visages-là qui seront entrés en politique, puis à savoir aussi l'opinion sur la place publique, c'est quoi? Est-ce qu'on était prêt à avoir de nouveaux visages? Est-ce qu'on leur laisse leur chance? Est-ce qu'on déjà on les envoie à l'abattoir? Est-ce qu'ils sont étiquetés à leur parti, au parti qu'ils auront choisi? Il y aura beaucoup de choses à jaser aussi là-dessus. Tu nous as parlé ce matin de quelque chose de tellement intéressant parce que, bon, au fédéral, on sait bien, Mark Carney est à la tête du Canada. C'est lui qui prend les décisions, mais il est dans bien des affaires en ce moment. Ça fait en sorte qu'il ne peut pas être partout parce que les choses dans lesquelles il est sont assez importantes. Je n'ai pas besoin de les nommer. Pierre Poilievre, pendant ce temps-là, commence à groupiller, un peu comme un genre de couleuvre en deux briques pas assez collées sur le paillasson.
C'est pas bien fin, ça.
Mais c'est vrai pareil parce que là, il veut vendre du gaz. C'est-tu son rôle, ça?
Pierre Poilievre vient de... En fait, il termine une mission très bientôt en Europe. Donc, il est allé au Royaume-Uni, il a fait certains discours. Au Royaume-Uni, il est allé dire que le Canada devrait vendre ses minéraux stratégiques et critiques seulement à des pays alliés. Déjà, c'est pas le message officiel du gouvernement Carney en ce moment. Parce que d'après moi, la Chine aussi reluque nos minéraux critiques et stratégiques. Donc, c'était déjà un message un peu dissonant. Il a prononcé un discours en Allemagne, à Berlin, dans lequel il a vanté le gaz canadien. Donc, il dit que le Canada pourrait être un fournisseur de gaz en Allemagne. Il faut dire que l'Allemagne, c'est très compliqué parce que c'était mis des objectifs de réduction de gaz à effet de serre importants, fait de nombreux efforts, notamment pour se sortir de formes d'énergie moins polluantes, mais continue d'avoir besoin de gaz naturel et c'est beaucoup la Russie qui était son fournisseur. Avec ce qui s'est passé dans les dernières années en Ukraine, il y a eu vraiment un moment de réflexion sur est-ce que c'est des bons partenaires pour dépendre quand on a besoin d'énergie. Et ça ramène toujours le débat ici. T'sais, on se rappelle le projet GNL Québec qui avait avorté parce qu'il n'y avait supposément pas d'acceptabilité sociale. D'ailleurs, je n'ai toujours pas de définition très claire de ce qu'est l'acceptabilité sociale. Est-ce qu'il faut que tout le monde soit d'accord? C'est combien? C'est qui?
51%!
C'est tout le monde juste dans la région, toute la province, on ne le sait pas trop. Mais Pierre Poilievre pousse toujours pour qu'on exploite nos hydrocarbures et qu'on exporte nos hydrocarbures. C'est le même discours que d'habitude, mais veut profiter du contexte international pour pousser sur ces boutons-là.
Et contexte aussi du pays où ça semble être un petit peu plus, justement, intéressant pour les gens du pays depuis les impositions tarifaires, depuis qu'on veut devenir un peu plus,
On veut diversifier aussi nos débouchés.
Oui, puis autonome.
Parce qu'on envoie énormément de nos ressources vers les États-Unis. C'était normal, on a une proximité géographique, on avait une proximité qui était politique, on était plus que des voisins, on était des pays amis et c'est une économie, c'est l'économie la plus puissante au monde. Donc, c'était logique de le faire.
Ben oui.
Là, on est en train de réaliser qu'il faut trouver d'autres débouchés. Puis l'Allemagne, ça peut être un débouché très intéressant. Mais la question à laquelle on revient, c'est est-ce que c'est à Pierre Poilievre d'aller commencer à vendre notre gaz naturel en Allemagne.
Puis plus loin que ça, avec les positions présentement de Mark Carney, on le voit avec le pipeline qui s'en vient au cours des prochaines années au Canada. Pierre Poilievre, même s'il joue cette carte-là, ben, il est contre quelqu'un qui est pour.
De toute
présentement,
façon.
Présentement, développement des hydrocarbures.
Mais c'est intéressant parce que c'est pour ça que je trouve que c'est quand même correct ce que fait Pierre Poilievre. Il n'est pas complètement en train d'avoir un contre-discours sur la scène internationale. Parce que moi, je vais vous dire, j'ai bien de la difficulté à ce qu'on lave notre linge sale en dehors de chez nous, dans la vie. Okay? Puis même quand je travaillais dans l'opposition, tout ce qui concerne les relations internationales, des fois, c'est tentant de faire des points, de se faire valoir, parce que ça permet à M. Poilievre d'avoir l'air plus premier ministre. Puis on comprend cet
mais
aspect-là.
À nos yeux, sauf qu'à l'international, on paraît moins unifié, on paraît moins fort, c'est tout ça?
Exactement. Si tu veux éviter de créer une espèce de cacophonie, surtout en ce moment, dans un moment assez critique de notre histoire et de l'histoire du pays, on veut éviter. Puis dans les dernières années, derniers mois, on a eu des exemples de cacophonie. Je pense à Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, qui faisait des publicités aux États-Unis puis qui était très, très frontal. Puis c'était pas vraiment la stratégie qui était préconisée par M. Carney. Au député conservateur, parlant de Pierre Poilievre, Jamil Givani, qui est allé aux États-Unis de son plein gré, de son propre chef, aller faire des entrevues puis dire quasiment aux Américains « Hey, on s'excuse, hein, c'est du niaisage. » Âge, là. Les Canadiens, c'est quasiment de notre faute là, si on a une crise avec les États-Unis. Tu veux éviter ça.
Le plus possible. Tu veux avoir l'air uni, tu veux avoir l'air fort sur la même position, mais tout le monde connaît la politique. Ça peut se déchirer à l'intérieur du pays pour savoir qui va prendre les rênes. Mais oui, mais pas à l'extérieur.
Mais quand on va chez la visite, là, me semble. Là.
Quand ça attrape. Quand en couple, là, on se
comme en couple. Là, c'est pas le temps d'aller chicaner au souper des amis. Là,
on réglera ça sur l'oreiller.
Exactement.
Là. Mais concrètement, là, moi, il me reste une affaire que je saisis mal là-dedans. Est-ce qu'il peut conclure des ententes? La réponse est non. C'est juste des discussions en ce moment-là. On s'entend.
Pierre Poilievre ne joue pas de rôle officiel. Il ne peut pas conclure des ententes. Je tiens quand même à préciser que c'est normal que des partis d'opposition entretiennent des liens, par exemple, avec d'autres partis politiques dans d'autres pays. Et c'est même plutôt sain, dans le sens que, tu sais, on change de régime des fois dans un pays. C'est pas mauvais de ne pas partir de zéro. Si jamais les conservateurs devaient prendre le pouvoir aux prochaines élections, c'est pas une mauvaise chose que Pierre Poilievre se réveille et se dise bon, peut-être qu'il faudrait que je m'occupe aussi des relations internationales. Tu deviens premier ministre d'un pays du G7, ça peut être intéressant. Par contre, c'est vraiment dans le discours plus public que je l'invite à la prudence. Puis on le sait, son public, en bout de ligne, c'est le public canadien.
C'est eux qui veulent aller rejoindre.
Ben oui, il veut pas séduire puis montrer que lui aussi est capable.
Puis il est proactif, puis il veut ça. Antoine, je peux-tu faire une petite parenthèse?
Bien sûr.
J'aimerais ça te demander, tu sais, pour le fédéral, là, avec Carney, tu sais, hier, il annonçait qu'il excluait pas l'entrée en jeu des troupes canadiennes dans le conflit du Moyen-Orient. Est-ce que c'est une annonce ou c'est plus une réflexion, puis on laisse les portes ouvertes parce qu'on n'a pas le choix?
Je pense pas que ça consistait en une annonce. Moi, je pense qu'il garde toutes ses options ouvertes. Mais ça a fait beaucoup réagir, cette affaire-là, parce que en fait, on a l'impression qu'il c'est le chaud et le froid en ce moment, M. Poilievre, sur ce qui se passe en Iran. Il a commencé par dire qu'il appuyait cette opération-là, puis on pouvait comprendre. On peut pas toujours être frontalement contre ce que fait notre voisin et la première puissance au monde, et qui demeure quand même notre allié, il faut le rappeler, même si c'est un petit peu plus compliqué comme relation ces temps-ci. Après ça, il est revenu sur sa déclaration en ajoutant « à regret ». On soutient, mais à regret, à contre-cœur. Mm-hmm. Donc là, déjà, le message est moins clair.
On n'est pas fervent, on n'est pas au front. Là.
Moi, honnêtement, dans la vie, des fois, là, tu peux incarner un message, tu n'es pas obligé de le dire. C'est-à-dire que on soutient l'opération, c'est un régime épouvantable en Iran, on s'inquiète de l'escalade quand même, il faut trouver des moyens de désescalader la situation, point.
Et on est toujours auprès de nos alliés parce qu'on ne veut pas détruire ces alliances-là aussi.
Ben c'est ça, mais il n'est pas obligé de le dire. Il peut ne pas démontrer d'enthousiasme.
Mm-hmm.
Mais il n'est pas obligé de dire « je n'ai pas d'enthousiasme ». Comprenez-vous la nuance entre les deux?
Oui, absolument. Mais, le bienfait.
Mais est-ce que tu penses que la raison pourquoi Mark Carney vient rajouter ces petites affaires-là par regret, c'est parce que présentement, tu as une grosse base qui est un peu plus de gauche, au NPD, puis même Parti vert. Là, je vous ai parlé d'un sondage fédéral là, durant les nouvelles. Puis ce que dit ce sondage-là fédéral sur le taux d'approbation du gouvernement Carney, les partisans du NPD soutiennent le gouvernement Carney, approuvent le gouvernement Carney à 70% présentement. Oui. 70%. Fait que lui, présentement, il est dans la chaise conducteur, puis il sait très bien qu'il y a une grosse branche, un peu plus de gauche, qui supporte. Mais que s'il supporte Donald Trump puis son intervention en Iran complètement, aveuglément, bien, il pourrait perdre cette base-là.
Ouais. Puis en même temps, quand je dis qu'il souffle le chaud et le froid, c'est ça. Il doit garder une espèce d'équilibre. Il y a aussi des membres de son propre caucus. Là, tu me parlais des sympathisants du NPD, mais même dans son caucus, il y a des restants de l'ère Trudeau, là. Puis je veux juste rappeler que Stephen Guilbeault n'est pas sorti du caucus, puis notamment sur les questions environnementales, ça peut être un peu tendu, puis il fait des entrevues là-dessus. Donc oui, il faut quand même qu'il fasse attention. Il y a des enjeux sur lesquels les libéraux ont toujours été flous. Là, on parle de l'Iran. Mais la Palestine, c'est pas évident. Là. À chaque fois que Mark Carney parle de la Palestine, il perd. À chaque fois. Parce que peu importe ce qu'il dit, il déplaît une frange de son caucus. Alors que, par exemple, son adversaire, Pierre Poilievre, résolument pro-Israël, c'est sans appel, c'est clair, ça se met bien dans une clip de 10 secondes dans un reportage de télé ou de radio.
Puis il cristallise son monde, puis il va chercher
son
monde. M.
Carney, c'est un petit peu plus compliqué. En même temps, ce léger-là dont tu parles, Mathias, démontre que Mark Carney est bien en selle, même s'il a fait un virage à droite dans son parti politique, les intentions de vote, là, les libéraux à 49%, ils ont encore gagné des points, conservateurs assez loin derrière à 35%, avec des taux d'approbation qui sont très bons, qui sont bons au Québec aussi, soit dit en passant, hein, on ne fait pas exception, et au contraire. Donc, pour M. Carney, pas trop d'inquiétude. Et on va surveiller aussi si M. Carney est capable d'aller chercher sa majorité, hein, dans les prochains mois. Ça va vraiment faire toute la différence. Et probablement que Pierre Poilievre sera bien content aussi que Mark Carney ait cherché sa majorité. Ça lui laissera plus de temps pour nous montrer qu'il peut être un premier ministre, parce que le virage est assez sec là, depuis qu'il s'est réveillé, qu'il fallait qu'il ajuste un peu ses messages et son attitude face à son nouvel adversaire.
Merci beaucoup, Antonine Iaccarini, pour le caucus. Vous pouvez l'entendre aussi dans le retour toute la semaine. Donc, Anto qui s'amuse aussi en co-animation pour le remplacement de Denis Gravel, qui, lui, a les deux pieds sur le pouf avec ses enfants pour la relâche. Je trouve ça correct. Honnêtement, c'est une tradition à chaque année. Il prend du temps avec ses enfants, puis je vous en souhaite aussi. Anto, merci d'avoir été là. On retient que Drainville est à surveiller sur ses positions sur les services de demandeurs d'asile. Pierre Poilievre veut vendre du gaz à l'Allemagne. Est-ce que c'est son rôle? Tu as répondu. Puis certainement, ben, le renouvellement en politique. Puis ça, si vous avez manqué les dernières minutes, rendez-vous sur le site de blvd.fm ou encore sur YouTube, parce que chaque jour, on va positionner le caucus. Merci, Anto.
Merci.
Jusqu'à